Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire est rapportée par le supposé sérieux quotidien Ouest France. L'affaire se passe au mois de juillet de cette année, en marge du festival Afrique Obendi dans le Finistère, à Logona d'Aoulas. Le festival est décrit, je cite, comme une manifestation interdisciplinaire et intergénérationnelle, placée sous le signe de la découverte et de l'échange. Elle se finit, l'histoire, au tribunal correctionnel de Brest. Le procureur, à moitié sérieux, qualifie le délit commis d'automophilie. Comme on parle de zoophilie, de pédophilie ou plus généralement des paraphilies, c'est-à-dire des attirances ou pratiques sexuelles qui diffèrent des actes traditionnellement considérés comme normaux et que la loi proscrit, l'automophilie serait donc une attirance ou une pratique sexuelle liée à la voiture. Il est 1h15 du matin, en effet, lorsque ce jeune homme de 22 ans, visiblement ivre, s'approche du véhicule des gendarmes stationné à proximité du festival. Il se place derrière la voiture et se livre alors avec le véhicule à une pratique sexuelle, disons originale, mais qui n'est guère du goût des gendarmes. Au président du tribunal, le prévenu dira par la suite qu'il ne se souvient de rien. Une expertise psychiatrique est ordonnée, le jeune homme sera jugé le 20 novembre prochain, rapporte toujours le quotidien de l'Ouest qui titre ainsi son article « Ivre, il tente de violer une voiture de la gendarmerie ». Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires de voitures, moins scabreuses bien sûr. C'est le troisième épisode de Cars, la série signée Delphine Dilly. C'est jusqu'à 14h sur France Culture, évidemment.
C'était en Ardèche, en 2009, au printemps. J'étais en train de passer 9 mois en Ardèche, alors que j'habite normalement en Estonie. Et voilà, je roulais entre Lamastre et Désagne pour rentrer chez moi. Et à la sortie de Lamastre, au détour d'un virage, je vois un autostoppeur. J'ai moi-même fait beaucoup de stops où j'en fais encore occasionnellement. J'en ai fait beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune. Donc en général, dès que je vois un autostoppeur ou des autostoppeurs, même s'ils sont deux, je m'arrête et je les prends, sauf s'ils ont l'air bien sûr trop louches. Là, je m'arrête pas. Lui, en l'occurrence, avait l'air absolument pas louche. Dans la mesure où il était, il devait avoir 65-70 ans, un homme, un bel homme, grand, élancé, chemise blanche impeccable, montre brillante, cheveux bien coiffés, bronzés, souliers vernis, mais pas de bagages, rien, juste un type comme ça. Donc sans hésiter, je freine, je m'arrête, bien sûr, content. Moi, je suis en général content de prendre quelqu'un, on discute, j'adore la rencontre, donc. Hyper content de prendre quelqu'un, et je lui demande où il va, il me dit je vais à Clermont-Ferrand, il monte, et on démarre. Et c'est là que il a commencé à me raconter son histoire. Il s'arrêtait pas, il était agité, il était paniqué. Et c'est là qu'il me dit qu'il était en route de Suisse vers Toulouse, où sa fille devait se marier avec un ingénieur de chez Airbus Industrie, que dans sa voiture il y avait des cadeaux de valeur, et qu'on lui avait volé sur un parking à Marseille, une grosse berline, une grosse voiture. Il m'a dit également qu'il était allé voir la police, et qu'on avait essayé de rechercher le véhicule grâce au GPS, mais le GPS avait été désactivé, et d'après lui, la voiture devait être déjà sur un bateau pour l'Afrique du Nord. Voilà. Et du coup, ses papiers étaient dedans, sa carte bleue était dedans, tout était dedans. En fait, il n'avait rien, à part sa chemise et sa montre. Il avait commencé à faire du stop le matin, très tôt à Marseille, et que voilà, là, je pense qu'on était en fin de matinée, il devait être 11h midi, que voilà, il allait à Clermont-Ferrand. En plus, il m'a dit qu'il était propriétaire d'une entreprise qui fabriquait des canons à neige. Effectivement, il n'avait pas l'air pauvre, cet homme. Il était d'apparence plutôt riche, comme ça, classe, riche. Et voilà, qu'il possédait un beau chalet en Suisse. Et que, comme je l'avais pris, je venais chez lui, et j'étais invité à venir quand je voulais avec ma famille, ça lui ferait plaisir. Je me dis, le pauvre, ça serait bien de l'aider, en fait. J'ai envie de l'aider. En général, je suis plutôt altruiste, donc j'aimerais bien l'aider. Comment on va l'aider, lui, qui s'est tout fait voler, ses papiers, qui va à Clermont-Ferrand au consulat honoraire suisse, comment on peut l'aider? En lui donnant de l'argent, bien sûr, pour qu'il prenne un train ou pour qu'il aille manger, etc. Donc je lui dis, écoutez, on va faire demi-tour, on va retourner à Lamastre, parce que là-bas, il y a un distributeur d'argent, et je vais vous donner de l'argent. Il me dit, ah, bah ça, c'est très gentil, oui, c'est très très gentil, très aimable à vous, je vous rembourserai dès que je serai rentré en Suisse, je vous enverrai un chèque, voilà, etc. Donc, on fait demi-tour, et pendant le demi-tour, il avait terminé son histoire, et c'est là, pendant le chemin inverse, qu'il commence à me dire, ah, votre voiture est immatriculée en Estonie. Oui, je connais bien l'Estonie, je connais bien Tallinn, la capitale, je connais la langue estonienne, c'est une langue finno-ugrienne, très dure à apprendre. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors je dis, voilà, je suis professeur de français à l'université. Il me dit, ah, vous êtes professeur de français, oui, la langue française, quelle belle langue, et la poésie française, l'imparfait du subjonctif, toutes ces belles choses, le passé simple, c'est des choses que j'aime beaucoup, et c'est dommage qu'on ne les entende pas assez dans la conversation aujourd'hui. Voilà, et il parlait bien, il était intelligent. On avait envie de lui parler, on avait envie de discuter, on a envie d'être sympa, tout simplement, quoi. Et il avait un accent que je ne savais pas déterminer. Moi, ça m'a fait penser à Suisse, ensuite ça m'a fait penser à Belge, c'est pourtant pas les mêmes accents, ou bien Alsacien, enfin je ne savais pas vraiment. Et aujourd'hui encore, je pense que personne ne sait exactement quel est son accent. En arrivant à la masse, je me suis garé, je l'ai tiré des sous, et quand je suis revenu, il n'était pas dans la voiture. Il était un peu en retrait de la voiture, ni derrière, ni sur le côté, comme ça, un peu en retrait vers un arbre. J'ai trouvé ça bizarre, mais après je me suis dit, il avait peut-être trop chaud, ou bien je voulais prendre l'air, tout simplement. Et c'est ensuite que je comprendrai pourquoi il est sorti. Donc, nous avons repris la route, la même, dans l'autre sens. Je lui ai donné l'argent, il m'a remercié, il m'a dit qu'il me rembourserait dès qu'il serait rentré, et on a repris la route dans l'autre sens, sur quelques kilomètres, et à l'endroit où je quitte la route pour rentrer chez moi, je l'ai laissé sur la route principale. À ce moment-là, il m'a donné un petit... on a échangé nos adresses sur des petits bouts de papier, il m'a donné son adresse, et on s'est quitté comme ça, amicalement. En rentrant à la maison, donc après l'avoir laissé en bas, j'étais content d'avoir rencontré ce type. C'était une rencontre incroyable. C'est un type qui marque l'esprit par son physique, parce que c'est un bel homme, par sa façon de parler. Il marque, tout simplement. Donc j'étais content d'avoir rencontré un type pareil. Et en rentrant, j'ai tendu le petit papier à ma femme, qui est tout de suite allée voir sur le net qui c'était. Et c'est là, je me souviens très bien, j'étais dehors et j'ai entendu un petit cri dans la maison. C'est ma femme qui s'est aperçue, en fait, que ce type était un autostoppeur escroc. Regarde, il y a un blog sur lui, regarde, il y a une photo. Ah oui, c'est bien lui, oui, je le reconnais. En lisant le blog, on voit qu'une fois, il va se présenter comme producteur de Noir Désir, une fois, il va se présenter comme propriétaire de station de ski. Il a plusieurs identités, plusieurs vies. Et là, je l'ai eu mauvaise parce que j'ai voulu récupérer mon argent, en fait. J'étais juste pas content d'avoir perdu 100 euros. Je roule pas sur l'or et j'en avais besoin. Donc, j'ai pris un gros couteau de cuisine. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que j'ai absolument pas l'intention de me battre ni rien. Vraiment pas. Mais je me suis dit, ça se trouve, ce type, il est dangereux, en fait. Et vaut mieux avoir quelque chose. Donc, j'ai pris un gros couteau de cuisine et je suis redescendu à fond sur les petites routes. Et en arrivant sur la route principale où je l'avais laissé, j'ai pris direction le puits Clermont-Ferrand, parce que c'est la route qu'il prétendait prendre. Et là, j'ai roulé 20 minutes. Attentivement, en essayant de le trouver, je ne sais pas, ou de détourner un virage sur une aire, n'importe où. Mais il était nulle part. Et en arrivant en haut sur le plateau à Saint-Agrève, j'ai laissé tomber. Et j'ai fait demi-tour, la queue entre les jambes. un an plus tard, peut-être, ou un an et demi plus tard, j'ai fait une peinture le représentant en m'aidant de la photo qu'on trouve sur le blog sur le net. Et quand je l'ai peint, ça met relativement longtemps à faire ce genre de portrait que j'ai un peu déformé. En fait, quand je l'ai peint, ça m'a énervé. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a déplu. Et j'ai pourtant allé au bout de la peinture. Mais une fois qu'elle était terminée, je l'ai retournée tout de suite contre le mur dans l'atelier et je l'ai montrée un peu aux gens. Mais vraiment, j'en ai rien fait de cette peinture. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi parce que j'ai vraiment aucune rancœur. Surtout si, enfin, je l'ai faite il y a 2 ans, donc c'était 4 ans après. Vraiment, aucun regret ni rien. Mais je ne sais pas. J'avais pas un bon feeling en la faisant. Je ne saurais pas dire pourquoi. C'était étrange. Étrange. C'est pas que je revivais quoi que ce soit. Je revivais rien du tout. Mais je ne sais pas. En fait, je pense que c'est son visage quand tu le regardes et que tu le peins au bout d'un moment. Tu y trouves, en fait, peut-être un mec perdu ou une chose sans espoir.
Sculpture, les pieds sur terre.
Allez, vous dormez là.
Voilà. Alors, au début, je dormais sur le lit, là, le lit prend.
Ouais.
Mais les lattes se sont barrées. Là, il y a le frigo, là. Le petit coin de cuisine, quoi.
Ouais.
Là, ce midi, j'ai fait une rouelle de porc.
Oui, vous faites à manger quand même.
Je me fais à manger, ouais. Bon, pour moi, c'est j'aime bien.
Frédéric est venu me chercher en voiture à la gare de Bailleul, près de Dunkerque. Il a garé sa petite déhoussée de chevaux près de la tente, dans laquelle il vit depuis 3 mois. Ici, c'est un camping 4 étoiles, c'est vallonné, c'est propre. Et il y a des familles qui vivent dans des mobil-homes toute l'année. Ce jour-là, il fait beau, les gens se baladent et il y a un peu de vent dans les grands peupliers. On est dans la voiture, les fenêtres ouvertes, et Frédéric commence à me raconter son histoire.
Ben, j'ai arrêté un boulot, j'ai démissionné d'un boulot alors que je devais y passer la vie, quoi, là, mais... Jamais j'aurais pu envisager de passer ma vie dans un... Je sais pas, c'est mourir enchaîné, quoi. De passer la vie dans une boutique et puis d'arriver à 60 ans, d'avoir sa retraite. Je pouvais pas me projeter comme ça. J'étais trop... je faisais de la guitare. Enfin, j'en fais encore, mais... J'avais un groupe. C'était quand même une bonne période, mais je voulais aller plus loin dans le monde artistique, mais ça n'a pas marché parce que j'ai dû rentrer dans le Nord, quoi. Et dans le Nord, il y a beaucoup moins de choses qui s'y passent, quoi.
Frédéric dit que c'est là que la galère a commencé. Ses parents l'hébergent une fois, deux fois. Il fait quelques mauvaises rencontres. Il séjourne à l'hôpital psychiatrique. Il dépense toutes ses économies. Il erre pendant 1 an, 2 ans.
J'ai essayé de monter une entreprise. En fait, j'avais fait élaborer à l'hôpital en fait, des gravures. J'ai fait imprimer. C'était un système avec un compas, en fait. C'était des dessins avec un compas. Des situations sportives, en fait. La boxe, l'escrime. Moi, je trouvais ça assez beau. Et j'ai essayé d'aller les vendre à Nice, en fait. Bon, solitaire, j'avais loué une voiture et puis voilà, direction la Côte d'Azur. Mais j'ai pas pu m'y installer parce que Nice est très protégé au niveau des. Enfin, pas des colporteurs, mais des vendeurs dans les rues, quoi. Mm. Donc, en fait, j'ai logé dans un hôtel où je pouvais faire la cuisine, etc. J'étais très bien. Mais j'ai tout laissé tomber, quoi. Je suis parti comme un fuyard. Et après, je me suis retrouvé. J'ai rendu la voiture. J'ai repris le train pour Bordeaux, je sais pas pourquoi. En fraude. Et de là, j'ai fait du camping et de la marche, quoi. Mais les campings sauvages, quoi. Et de la marche comme un. Enfin, de la marche, quoi. Je me sentais vraiment. Je me sentais bien, en fait. C'était l'été aussi, hein. C'est ça le truc, hein. Parce que l'hiver, j'aurais pas pu le faire. Je me sentais bien, tranquille. Je mangeais normalement du pain avec du poisson, du fromage, du Nutella.
Et vous les achetiez comment du coup? Parce que vous aviez quoi comme argent?
J'avais le RSA en fait. Je touchais quand même le RSA. Mmh. Donc j'avais ce qu'il fallait, quoi. J'avais ce qu'il fallait. Je pouvais me nourrir et. Mais j'avais même arrêté de fumer tout, quoi, puis même le tabac. Quelquefois, il y a des gens qui me prenaient en sop. J'étais libre. C'est ça, en fait. C'est ça qui me plaisait, c'est parce que j'étais libre. Mais bon, ça a un prix, hein. La liberté, c'est un prix assez cher, quand même, hein. Le prix de la liberté, on le paye, je pense, toute sa vie. Je pense que. C'est comme ça, quoi. C'est soit on s'enchaîne, on s'emmure, ou d'une façon ou d'une autre, quoi. Soit dans une entreprise, soit dans sa tête. Moi, je pense que c'est ça le dilemme de l'homme, quoi. Choisir la liberté ou l'enfermement. J'ai traversé les Landes, même sur les plages, hein, c'est magnifique en plus. Hein, j'avais mon sac, un gros sac à dos sur le dos, avec une tente, une petite tente. Et puis de l'eau, le plus difficile c'est transporter l'eau en fait, parce que c'est lourd. Puis se laver c'était avec des produits, soit je trouvais un petit cours d'eau et je me lavais le matin comme ça, ou soit je me lavais avec des produits crème douche, quoi.
Toutes les 20 minutes, il roule des cigarettes dans sa machine. Frédéric dit qu'il en a eu marre de marcher. Alors il retourne chez son père, et puis il rencontre une femme, ils font un enfant. Et Olivier naît à Armentières il y a 12 ans. Frédéric retente alors le travail, quelques petits boulots de manutentionnaire pour survivre. Mais en plein hiver, il craque et il quitte tout. Il repart dans les rues, sur les routes, hébergement d'urgence et foyer mal fréquenté.
J'ai fait une grosse dépression et même un peu pire, des épisodes psychotiques, quoi. C'est-à-dire que je vivais dans un autre monde, quoi, en fait. J'étais dans mon monde et j'ai fini à l'hôpital psychiatrique. Parce que j'ai eu un épisode où je voyais des choses se défiler sur le mur, quoi, se dessiner sur le mur. C'était une femme en fait. C'était une femme et voilà, une maghrébine en fait. J'avais les visites d'Olivier, que je voyais une fois tous les 15 jours le samedi. J'étais, au début j'étais très bien et j'ai mal fini quoi. Je sais pas, à chaque fois c'est comme ça. J'ai rechuté en fait. Et je me suis retrouvé à l'hôpital, puis après, comme c'est pas un hôtel, bah voilà, c'est l'épisode voiture. Mmh. Et le plus difficile en fait, c'est de trouver des endroits où on n'est pas embêté, soit par la police. Ce qui est difficile parce qu'ils patrouillent la nuit, ils patrouillent le jour. Il y a même des gens qui vous proposent une soupe et puis en échange, vous devez débarrasser la voiture parce qu'elle n'est pas comme elle voudrait qu'elle soit. Donc j'ai quitté des bons lieux pour ça aussi. Et trouver des endroits calmes où on peut avoir un peu d'hygiène, quoi. Un peu de. Le moment où on se retrouve le matin, où il gèle, où. Il faut se changer parce que c'est de l'hygiène qu'il faut avoir. Par contre, j'ai trouvé des gens vraiment incroyables. Il y a une dame qui venait promener son chien tous les matins. Une dame qui avait un certain standing, un beau chien et tout, un beau labrador, et qui venait tous les matins. Et une fois, elle m'a donné 160 euros un matin, alors que j'avais plus rien sur mon compte. J'étais vraiment à zéro. J'étais bloqué, je pouvais plus mettre d'essence, j'étais bloqué. Et les flics qui me faisaient chier. Et elle m'a donné 160 euros, et grâce à cette dame, que je remercie aujourd'hui, je ne sais pas son nom, je ne sais pas où elle habite, grâce à cette dame, j'ai pu redémarrer, quoi. J'ai pu rechercher de l'essence, regonfler mon pneu qui était crevé, enfin qui était dégonflé, et j'ai pu repartir, grâce à cette dame. Je la remercie aujourd'hui. J'étais bien, franchement. J'écoutais la radio, j'écoutais de la musique. Je mangeais, je mangeais énormément. Je buvais du coca et. Enfin, tout ce qu'il y a de mauvais pour moi. J'avais même plus de téléphone, on me l'a volé en fait. Franchement, j'avais un toit quoi. Donc sans la voiture, en fait, je sais pas ce que j'aurais fait. Je crois que j'y serais plus arrivé. Je crois que j'avais plus la force de marcher pendant des heures dans la ville, aéré quoi. Mais je me sentais bien. Enfin, j'attendais autre chose, mais c'était comme ça quoi. Je le prenais avec philosophie en fait. Je me disais ça ira mieux demain.
Et c'était la voiture dans laquelle on est là ou c'était une autre voiture?
Non, c'était une Golf en fait, de 87 ans. Une Golf rouge, et j'aimais bien parce que, je sais pas, ça crée des liens quand même avec un objet, on peut créer des liens quoi. Même dans cette voiture-ci, j'aime bien, j'y suis bien au volant quoi, j'aime bien les voitures.
Cette voiture, c'est Cindy qui lui a trouvé. Elle a un groupe Facebook, Stop à la galère, Marre de la misère et dont les sans-abri. C'est elle aussi qui a trouvé le four micro-ondes, la télé et la tente.
Ça, je laisse à Cindy. Je lui ai téléphoné hier, en fait. Je pars en emmenant mes affaires et puis je laisse tout. Et peut-être que je viendrai l'aider, j'espère que je pourrai, pour venir de monter la tente qui est morte, là. En fait, je barre parce qu'elle n'est plus étanche du tout. Il y a des gouttes qui ruissellent sur le matelas et demain il prévoit des orages. Donc, je préfère être à l'abri dans la voiture.
Aujourd'hui, Frédéric est sous curatelle et dans quelques jours, il aura la réponse d'un foyer relais. Après l'avoir quitté, je reçois un message sur mon portable. Là, je suis dans les champs de maïs, au bord d'une petite départementale. Tout va bien.
True love will find you just two with your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Cars, le troisième épisode de la série signée Delphine Dilly, réalisée aujourd'hui par Lionel Quentin, au mixage Pierre Monteil. L'attaché de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon. Vos commentaires, des histoires, des réactions, franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter et nous y sommes très actifs. Nous vous y attendons aussi toujours avec impatience. Vous devez également vous abonner au podcast des Pieds sur Terre, ce qui vous permettra de nous écouter où vous voulez et quand vous voulez. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de notre chaîne. Restez sur France Culture, il n'y a pas que les pieds sur terre.